France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Emmanuel Morse-Duncan, Martine Moni, Emmanuel Rose et Olivier Dehaye. Voici la deuxième émission de notre série consacrée au chef anglais John Barbirolli, dont nous avions évoqué hier les débuts de violoncelliste dans des orchestres anglais, puis ses débuts de chef d'orchestre à Londres avec des solistes de premier rang. Aujourd'hui, ce sera Barbirolli en Amérique. En 1936, Arturo Toscanini s'éloigne de l'Orchestre Philharmonique de New York pour un poste plus lucratif à la tête de l'orchestre de la radio NBC. Et pour le remplacer, on fait appel à plusieurs chefs, dont John Barbirolli, que nous allons retrouver à la tête de ce prestigieux New York Philharmonic Orchestra. Ils accompagnent en 1938 Yehudi Menuhin, qui jouait un concerto qu'on venait de redécouvrir, le concerto pour violon en ré mineur de Robert Schumann.
Thank you.
pour le virtuose Joseph Joachim, que ce qui est donc le futur créateur du concerto de Brahms, c'est pour Joseph Joachim que Robert Schumann avait créé en 1853, avait composé ce concerto pour violon en ré mineur, dont nous écoutions un extrait du final sur ce rythme de polonaise. La partition n'étant pas la plus inspirée de Schumann, on l'a oublié au 19e siècle jusqu'à sa redécouverte dans les années 1930. Les nazis en 1933 souhaitaient que cette musique allemande soit ressuscitée en Allemagne par un violoniste non juif. On a donc fait appel à Georg Kulmkampf pour la création en Allemagne de cette partition de Robert Schumann, un concerto retouché et par Kulmkampf et par Paul Hindemith. Mais le premier enregistrement de la version originale conforme au manuscrit de Schumann, c'est cette version de 1938, de février 1938, avec Yehudi Menuhin accompagné par l'Orchestre Philharmonique de New York que John Barbirolli avait pris en main 2 ans auparavant. C'est donc Barbirolli l'Américain, nous allons évoquer maintenant dans ces années 1940, marquées évidemment par la guerre, mais marquées également par tous ces grands solistes. Nous en entendions quelques-uns hier dans les années 30, au piano Alfred Cortot, Edwin Fischer, Arthur Schnabel, au violon Fritz Kreisler, Yasha Rifet, au violoncelle Grégoire Piatigorsky, sans parler des grands chanteurs comme Lauritz Melchior. Eh bien, après Yehudi Menuhin, voici une autre légende du XXe siècle, c'est le pianiste Vladimir Horowitz qui enregistrait à Carnegie Hall en mars 1940 le premier concerto de Tchaïkovski avec ce même orchestre philharmonique de New York dirigé par John Barbirolli. Ça déborde dans tous les sens, il y en a peu à côté, mais c'est quand même Vladimir Horowitz en fusion en 1940 dans ce final du concerto numéro 1 de Piotr Ilitch Tchaïkovski, l'opus 23 en si bémol mineur à Carnegie Hall en mars 1940 avec l'Orchestre Philharmonique de New York dirigé par John Barbirolli. Carnegie Hall où cet Orchestre Philharmonique de New York est alors en résidence. Ce Carnegie Hall, salle de concert classique qui deux ans auparavant, en janvier 1938, avait accueilli son premier concert de jazz, un concert légendaire d'ailleurs, du clarinettiste Benny Goodman, The King of Swing comme l'on surnomme. Benny Goodman, jazzman, aussi à l'aise dans le swing que dans cette musique dite classique et même contemporaine, puisque en 1939, il avait créé les contrastes de Béla Bartok avec le violoniste Józef Ziggetti et avec le compositeur au piano. Benny Goodman, nous allons le retrouver dans une partition de Claude Debussy qui est cette rhapsodie que Debussy avait composée en 1910. C'était un morceau de concert pour le Conservatoire de Paris, mais bien sûr, tout ce qui sort de la plume de Claude Debussy est digne d'intérêt, notamment cette rhapsodie enregistrée à Carnegie Hall 30 ans après sa création, donc en 1940 par Benny Goodman, toujours avec l'Orchestre Philharmonique de New York dirigé par John Barbirolli sur France Musique. Thank you. Le clarinettiste Benny Goodman, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par John Barbirolli, c'était la première rhapsodie en si bémol majeur de Claude Debussy.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Au cours de sa carrière, John Barbirolli a dirigé bien sûr des œuvres du répertoire. Il a également dirigé des créations par exemple de compositeur anglais Arnold Bax en 1927 avec son ouverture romantique. Nous reviendrons sur la 8e symphonie qui lui était dédiée, de 8e symphonie de Ralph Vaughan Williams, également des partitions de Walton, de Gretchaninov, de Darius Milhaud ou encore Gerald Finzi. Et puis en 1941, à la tête de l'Orchestre Philharmonique de New York, John Barbirolli dirige la création de la Sinfonia d'Arecchio de Benjamin Britten. Britten, en 1940, était aux États-Unis avec son compagnon, le ténor Peter Pears, lorsqu'il a reçu la commande d'une partition pour le 2600e anniversaire de la fondation de l'Empire japonais. Le gouvernement japonais avait fait appel à plusieurs compositeurs pour célébrer cet événement. La partition de Britten n'avait pas du tout plu au gouvernement japonais, mais donc c'est à cet orchestre philharmonique de New York, on a confié la création de cette œuvre. De voici un extrait d'Dies Irae, dirigé par John Barbirolli.
Thank you.
De la création de la Sinfonia da Requiem de Britten, qu'on entendait là, un extrait de cette partition, créée le 29 mars 1941. L'orchestre philharmonique de New York, dirigé par John Barbirolli, dont la présence à la tête de cet orchestre était contestée, et notamment parmi les critiques de l'époque, comme le compositeur Virgil Thomson, à qui nous avions consacré une émission récemment. Le critique le comparant en sa défaveur à son prédécesseur Arturo Toscanini, et songeant avec amertume que l'on avait rejeté le nom de Wilhelm Furtwängler pour diriger l'Orchestre Philharmonique de New York, parce que Furtwängler avait décidé de rester vivre et travailler dans l'Allemagne nazie à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Ajoutez à cela les accusations de Barbirolli contre les syndicats. Il déclarait le syndicat local des musiciens édicta une nouvelle réglementation comme quoi tous les musiciens, y compris les solistes et les chefs d'orchestre, devaient adhérer. Fin de citation. Bref, ambiance tendue à New York, ce qui n'a pas empêché John Barbirolli de réaliser des grands concerts et des enregistrements marquants comme celui de ce concerto numéro 4 de Beethoven avec une légende du piano du XXe siècle, Joseph Hoffmann.
Thank you.
Malgré cette dégradation technique de l'enregistrement, c'est toujours très émouvant de retrouver ces pianistes du 19e siècle, puisque Joseph Hoffmann est né en 1876 à Cracovie, en Pologne. Il s'est imposé comme un des grands pianistes de son temps, lui qui a été formé par Anton Rubinstein, non pas Arthur, mais Anton, Moritz Moszkowski, et qui va transmettre son savoir à des pianistes comme Choura Cherkassy ou encore Georges Bolette. Eh bien, à l'âge de 65 ans, 1941, ce pianiste Joseph Hoffmann était avec l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par John Barbirolli dans ce quatrième concerto, l'opus 58 de Beethoven, le Van Beethoven, comme dirait Aurélie Moreau, qu'on retrouve tous les jours à 17h sur France Musique et francemusique.fr. Je le disais, la tension monte autour de John Barbirolli qui va décider de repartir dans son Angleterre natale, d'autant plus que en décembre 1941, c'est l'attaque sur Pearl Harbor et l'engagement des États-Unis en guerre. On exige à la tête de l'Orchestre Philharmonique de New York un citoyen américain. Impossible de prendre la nationalité américaine pour John Barbirolli qui est anglais et qui se sent aussi concerné par ce qui se passe là-bas, chez lui. Tout comme Britten en 1942, il va revenir en Angleterre. Mais juste avant, en novembre 1941, il va retrouver un pianiste français qu'il connaissait bien, puisqu'ils ont plusieurs fois travaillé ensemble à New York. C'est Robert Casadesus que voici dans le final du concerto numéro 27 de Mozart, le Köchel 595. Thank you. Robert Casadesus en 1941 avec l'Orchestre Philharmonique de New York dirigé par John Barbirolli. C'était le final du concerto en si bémol majeur, le 27e concerto de Mozart, Köchel 595, dont nous avions écouté hier le mouvement lent avec Arthur Schnabel en 1934 en compagnie de l'Orchestre Symphonique de Londres dirigé par ce même John Barbirolli. Barbirolli qui décide de revenir donc dans son Angleterre natale. J'étais aux États-Unis quand la guerre éclata en tant que chef d'orchestre du New York Philharmonic. Un ami qui était alors amiral en chef m'écrivit pour me dire que contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, la musique était en plein essor et que mon retour, si j'en décidais ainsi, serait chaleureusement apprécié en Angleterre. À vrai dire, j'avais un fort désir de rentrer et c'était simplement une question d'organisation. Cet ami en fit part à Churchill qui lui répondit apparemment avec ces mots « S'il est assez fou pour revenir, laissez-le donc faire ». Fin de citation. Et la traversée à bord d'un navire fruitier dura 23 jours et de notre convoi de 75 navires, seulement 32 arrivèrent à Liverpool. Je jouais sur place pendant 10 semaines avec le London Symphony Orchestra et le London Philharmonic Orchestra pour remonter le moral des musiciens et réembarquer sur un bananier de 5000 tonnes de la Fives. Nous fûmes repérés par un sous-marin allemand dès le passage de l'Irlande du Nord. Mais ce n'était pas le genre de chose qui m'inquiéta, car je suis plutôt du genre fataliste. En tout cas, c'était formidable d'être de retour, de revoir l'Angleterre à son zénith et de rendre visite à ma vieille mère. Fin de citation. Joie du retour de Barbirolli, qui est tempérée par une triste nouvelle. Le 3 novembre 1942, l'un de ses disciples, un de ses élèves, un de ses amis, Michael Hemming, meurt au combat à l'âge de 22 ans à la bataille de El Alamein. Il est, comme on dit en anglais, « killed in action ». Et lorsqu'on renvoie à sa mère les affaires de ce Michael Hemming, elle découvre parmi les vêtements des partitions, des esquisses de composition. Alors le père, Percy Hemming, qui était un grand baryton, un grand scarpia notamment, va voir Barbirolli avec ses partitions et lui demande ce qu'on pourrait faire de cela. Alors on fait appel à un autre compositeur, Anthony Collins, qui les rassemble et qui écrit cette œuvre intitulée « Threnody for a Soldier Killed in Action », traîne, donc lamentation funèbre pour un soldat mort au combat, partition de Michael Hemming, interprétée par l'orchestre Halle, dirigé par John Barbirolli. Threnody for a Soldier Killed in Action, traîne pour un soldat mort au combat. Voilà le titre de cette partition qu'Anthony Collins avait reconstitué, on pourrait dire, à partir des esquisses de ce Michael Hemming, tué à 22 ans à la bataille d'El Alamein, compositeur et disciple de John Barbirolli. Traîne pour un soldat mort au combat qui fut créé le 14 janvier 1944, le jour de l'anniversaire de ce jeune soldat, par l'orchestre Halley de Manchester, dirigé par John Barbirolli, qu'il avait enregistré quelques mois plus tard, le 20 mars 1945, comme on vient de l'entendre. Barbirolli, en 1943, avait fait un aller-retour à New York pour honorer quelques engagements, et à la demande de l'acteur Leslie Howard, qui voulait changer sa date de départ, il avait échangé son billet d'avion avec lui, et il avait pris l'autre avion. C'est Leslie Howard avait pris l'avion qui allait s'écraser dans le golfe de Gascogne. Donc il s'en est fallu d'un cheveu pour que John Barbirolli disparaisse en 1943, ce qui l'a laissé très songeur, lui a laissé une marque assez indélébile, cette expérience, la mort étant assez proche, la mort de son jeune disciple, et puis sa mort probable dans l'océan.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Un nouveau destin l'attend après la guerre, John Barbirolli, puisque cet orchestre Halley de Manchester est menacé et il demande de l'aide à ce chef d'orchestre qui renonce à sa carrière américaine pour s'installer presque définitivement à la tête de cet orchestre Halley de Manchester, un orchestre qui avait été fondé par Sir Charles Halley en 1858, d'où son nom qu'il garde encore aujourd'hui, le Halley Orchestra, aujourd'hui dirigé par Mark Elder. Et John Barbirolli va faire de cet orchestre l'un des meilleurs d'Angleterre de 1943 jusqu'à sa mort en 1970. En voici un premier enregistrement avec la symphonie fantastique de Hector Berlioz.
Thank you.
C'était presque un concert du Nouvel An. Le 2 janvier 1947, John Barbirolli faisait valser ses musiciens de l'orchestre Hallé de Manchester dans cette symphonie fantastique de Hector Berlioz. Et je dis bien ses musiciens de l'orchestre, comme en témoigne le Times de l'époque. En l'espace de 2 mois d'audition ininterrompue, Barbirolli a reconstruit l'orchestre Hallé, recrutant tout musicien de bon niveau, quels que furent leurs antécédents. Il se retrouva ainsi avec une première flûte d'âge scolaire, une corniche maîtresse d'école et divers cuivres venant de musique militaire de la région de Manchester. Finalement, le premier concert du nouveau Hallé fut à la hauteur de la réputation du grand fondateur Charles Hallé. Cet orchestre Hallé, le voici de nouveau dans une pièce contemporaine en 1947. C'est le compositeur Edmund Rubra qui écrit sa 5e symphonie, un compositeur anglais né au cœur de l'Angleterre à Northampton en 1901 et qui était un élève de Gustav Holst. un extrait de la 5e symphonie, opus 63 en si bémol majeur de Edmund Rubra, R-U-2-B-R-A, compositeur qui écrit cette musique en 1947, qui a été créée par Adrian Boult et reprise par cet orchestre Halley de Manchester dirigé par John Barbirolli. John Barbirolli qui, en décembre 1944, fait la rencontre d'une jeune chanteuse qui va devenir une grande amie et surtout qui va devenir une des plus grandes artistes du XXe siècle. C'est Kathleen Ferrier, avec laquelle il a enregistré de nombreuses partitions comme le poème de l'amour et de la mer d'Ernest Chausson ou encore le chant de la terre de Gustav Mahler, toujours avec l'orchestre Halley. Nous sommes à Manchester en 1952. Von der Schönheit, de la beauté, voilà le titre de cet extrait du Chant de la Terre de Gustav Mahler par Kathleen Ferrier en 1952 avec l'orchestre Hallé de Manchester dirigé par John Barbirolli. Barbirolli qui en 1949 devient Sir John Barbirolli. Le compositeur Ralph Vaughan Williams va même lui donner un surnom qui va lui rester jusqu'à sa mort, le surnom de John le Glorieux, Glorious John. Vaughan Williams avait confié à l'orchestre Hallé et à son directeur musical la création de la 7e symphonie, la Symphonia Antarctica, et Vaughan Williams va dédier à ce Glorious John sa 8e symphonie, dont voici l'enregistrement de la création. mai 1956, l'orchestre Hallé de Manchester, dirigé par John Barbirolli, ou plutôt Sir John Barbirolli, était applaudi à l'issue de la création de la 8e symphonie en ré mineur de Ray Vaughan Williams, dont nous écoutions la toccata finale. Barbirolli, que nous écouterons à la fin de la semaine dans le final du concerto pour violoncelle d'Edward Elgar, dans l'enregistrement légendaire réalisé en 1965 par Jacqueline Dupré avec l'Orchestre Symphonique de Londres. Mais Barbirolli nous a laissé d'autres enregistrements de cette partition, en 68 avec le violoncelliste Vladimir Orlov, ou encore en 1957 avec l'orchestre Hallé de Manchester, en compagnie du violoncelliste français André Navarra.
Thank you.
resterons là, en suspens, au milieu de cette merveilleuse partition de ce concerto pour violoncelle en mi mineur, l'opus 85 d'Edward Elgar, joué ainsi en 1957 par André Navarra avec l'orchestre Allais de Manchester dirigé par Sir John Barbirolli. Et la suite de ce concerto, ce sera sous les doigts de Jacqueline Dupré. Ces musiciens anglais ne manquent pas de montrer leur attachement à la Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, en toutes circonstances, je dirais même en toute pompe et circonstance, ici avec Kathleen Ferrier. Démonstration pétaradant de ce qu'on appelle le jingoïsme, ce patriotisme britannique en 1951 avec l'orchestre Allais, le chœur Allais et Kathleen Ferrier, dirigée par John Barbirolli dans ce Land of Hope and Glory de Edward Elgar. Bonjour Lionel Esparza.
Bonjour François-Xavier Chomchak. Il paraît que c'est votre fête aujourd'hui, c'est la Saint-François-Xavier Chomchak.
Non, c'est pas vrai.
Si c'est vrai. Mais si, si, si.
Et alors qu'est-ce qu'on dit?
Bonne fête.
Bah oui, merci.
Ah oui,
merci,
bah, c'est le prêtre de circonstance qui voulait souhaiter en plus. Hein,
merci Lionel.
Tout en finesse.
Non, ça fait plaisir.
Si, si, ah,
ça,
quand même, je comprends. Bon, et demain, qu'est-ce qu'on fait pour la préfète?
Eh ben, suite de Sir John avec de grands enregistrements des années 60 de cet orchestre. Allez!
Eh bien, merci François-Xavier, à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.